De retour à première heure, 8h10 minutes, le jeudi 9 février. On passe encore 50 minutes ensemble, dernière heure de l'émission. Ça passe vite, surtout quand on est en bonne compagnie, dit l'adage. Et donc, ça a passé vite cette émission, ça a passé vite cette semaine. J'espère que vous allez bien, on est content que vous soyez avec nous. Dans les prochaines minutes, on vous parle de l'explosion des délais pour l'obtention de permis de travail des demandeurs d'asile. C'est un dossier que suit notre collègue Marika Wheeler, qui sera ici en studio avec nous pour en parler. On vous parle sport aussi avec Martin Leclerc, entre autres des deux directeurs généraux qui quittent ou perdent leur poste dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et on va parler aussi d'intelligence artificielle vers la fin de l'émission. Très intéressant, ça. Un dossier à suivre, là, un nouvel outil pour aider les entreprises avec l'intelligence artificielle dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre où on veut augmenter la compétitivité ou la productivité des entreprises. Ça tombe plutôt bien. Puis on va parler évidemment de météo aussi, Mireille.
Deux rives, deux réalités. C'est ce qu'on doit retenir là, pour la météo des prochains jours, parce que justement, notre réalisatrice, elle nous disait qu'elle faisait un déplacement vers le centre du Québec. Les gens qui iront vers Montréal, vers la Mauricie, surveillez, parce que moi, je vous annonce la neige, mais dans le sud du Québec, là, plus vers l'ouest, c'est de la pluie. Et ça commence en neige cet après-midi à Montréal, mais ensuite, ce sera de la pluie. On a des avertissements de pluie verglaçante pour Gatineau, Lanaudière, Laurentides, la Mauricie notamment, alors que nous, pendant ce temps-là, bien, c'est la neige qu'on surveille. Mis à part le secteur de la Beauce, Thetford Mines, où on est un peu plus au sud, là, où là, on risque d'avoir à travers ça de la pluie à partir de la nuit prochaine. Mais pour les secteurs le long du fleuve Saint-Laurent, pour les secteurs au nord, ça tombe en neige et même pas mal. On attend de 15 à 25 cm de neige. Ça commence en fin de journée aujourd'hui et ça se poursuit jusque vendredi en fin de journée. Pourquoi avertissement de tempête hivernale pour les secteurs de Québec, Portneuf, jusqu'à Bellechasse, Lobinière, Lévis, Valcartier, le nord de Québec? C'est qu'on aura un épisode de pluie verglaçante demain en fin de nuit. On attend 1 à 2 mm de pluie verglaçante pour ensuite revenir en neige en après-midi. Secteur de Charlevoix, Montmagny, Lillet, pas de souci, ça tombe en neige là-bas pour 15 à 25 aussi. Alors, on va pelleter au cours des prochaines heures. Et en Beauce, bien, c'est ça, c'est de la neige pour commencer la nuit, 5 à 10 cm, même que ça tombe parfois de façon assez soutenue en début de soirée. Et ensuite, on aura de la pluie. Là, on parle de 10 mm possible dans le secteur de Thetford Mines, notamment avec un risque de pluie verglaçante. Partout, c'est venteux. Au sud, les vents viennent du sud. Au nord, les vents viennent du nord. Alors, d'où les écarts aussi de température. On aura autour de zéro demain pour la grande région de Québec au thermomètre. Charlevoix en est à moins 5, Montmagny moins 6, mais en Beauce, 5-6 degrés au-dessus de zéro. C'est ce qui est prévu. D'ici là, bien, c'est du soleil pour ce matin. Profitez-en bien. Il fait moins 11 à Lévis, mais les nuages s'amènent, bien entendu, en deuxième portion de journée.
Marc-André, à quoi doivent s'attendre les gens qui doivent se déplacer sur le réseau routier aujourd'hui?
Ah ben c'est compliqué là présentement. On a dégagé les voies là à la sortie du pont Pierre-Laporte direction nord là où on avait un accident dans la voie de droite et une panne dans la voie de gauche. Alors tout ça est réglé mais évidemment là si vous partez maintenant là, il y a des embouteillages monstres un peu partout. L'A20 Est est bien bloqué là à mi-chemin, je vous dirais entre la halte routière et la route Lagueux. Alors jusqu'au chemin à l'entrée du pont là, on est par choc contre par choc. La 73 Nord s'est bloquée avant la rue Beaulieu. La 20 Ouest, elle, est bien au ralenti également là, à partir du chemin des Îles, donc jusqu'au pont. Pas de répit là, dans les trois cas là, pour les automobilistes. On a de longues files d'attente aussi là, pour les gens qui optent pour le pont de Québec sur Guillaume Couture et Marie-Victorin. C'est des bouchons qu'on voit rarement là, par les temps qui courent. Alors, il faut être très, très patient là, pour la traversée vers Québec. Sinon, retarder un peu votre départ, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Pour Félix Claire, direction ouest, ça demeure chargé, mais depuis Henri Bourassa. Alors, on note une petite amélioration jusqu'à Pierre-Bertrand. On est au ralenti. Laurentienne-Sud, de Jean Talon à Soumande, c'est pas réglé. On a l'accès Félix-Leclerc-Ouest également qui est bien congestionné. Ça s'améliore un peu aussi sur Henri IV-Sud où l'approche Félix-Leclerc est encore au ralenti, mais avant Chauveau, donc secteur Sainte-Geneviève, là, c'est dégagé présentement.
Monsieur Boucher, qu'est-ce que vous avez à nous dire, vous, ce matin?
Un homme de 23 ans sera accusé de possession et de vente de cannabis illicite. Une perquisition faite à sa résidence du secteur Saint-Émile a permis aux policiers de saisir une centaine de vapoteuses à cannabis, qu'on appelle communément « wax pen ». Ils ont également mis la main sur plus de 700 grammes de cannabis, 500 $ en argent et une voiture. La police de Québec rappelle que les vapoteuses à cannabis sont non seulement illégale, mais elle présente aussi des risques de surdose compte tenu de leur forte teneur en THC, qui est l'élément euphorisant du cannabis. L'enquête sur ce trafiquant s'est amorcée en novembre dernier.
Merci, Martin. 8h15, comme je le disais d'entrée de jeu, on retrouve notre collègue Marika Wheeler, collègue journaliste ici à Québec. Bonjour, Marika.
Bonjour, Alex.
Alors, on a parlé depuis un certain temps déjà de cette difficulté des demandeurs d'asile à obtenir un permis de travail. Mm-hmm. À une certaine époque, ça allait plus rapidement. Là, les dossiers s'accumulent. Évidemment, on pense au chemin Roxham. Hein. Il y en a plusieurs qui ont traversé la frontière. Puis on se rend compte que ça prend du temps pour certains d'entre eux pour obtenir ce permis-là. Puis vous avez creusé cette question-là, Marika. Combien de temps ça prend pour un travailleur ou plutôt un demandeur d'asile d'avoir un permis de travail?
Oui, donc j'ai échangé avec une professeure de l'Université Laval qui mène un projet de recherche spécifiquement sur le parcours socioprofessionnel des demandeurs d'asile dans la région de la ville de Québec. Et ses recherches ont démontré que le délai moyen entre l'arrivée au pays et l'obtention du permis de travail est de 18 mois. J'ai parlé à des intervenants qui disent on comprend pas parce
18
qu'on...
mois, c'est presque 18, 2 ans, ça.
Un an et demi. Alors, on c'est des gens qui déposent leur demande en même temps. Les délais de ces personnes-là varient vraiment d'une personne à l'autre. Ils pensent que c'est possiblement en lien avec la manière que la personne a déposé sa demande d'asile, si c'est en ligne, à l'aéroport, au chemin Roxham. J'ai rencontré une famille de demandeurs d'asile du Mexique qui demeure ici à Québec. La maman est arrivée en septembre et elle a pu obtenir son permis de travail environ 4 mois après son arrivée. Mais ses enfants, qui sont des enfants d'âge adulte, là, des jeunes adultes, doivent attendre 1 an et demi, donc de 18 mois, pour avoir la rencontre, pour pouvoir ensuite faire la demande du permis d'asile. Donc, c'est vraiment très long à attendre pour eux. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada dit que le délai moyen entre le moment où une personne demandeuse d'asile rentre au pays et rendue à cette étape où est-ce qu'ils peuvent demander ce permis de travail est passé de 9 jours en 2017 à 6 mois en novembre 2022. Alors, quand même, on voit là, l'extension du temps. Aline Lechaume est la professeure de l'Université Laval que j'ai rencontrée. Elle travaille au département des relations industrielles et elle dit qu'en attendant le droit de travailler, les demandeurs d'asile ont 2 choix.
Soit rester dans cette grande pauvreté ou tomber dans le piège, si je puis dire, du travail non déclaré.
Les demandeurs d'asile ont droit aux allocations de dernier recours. L'allocation de base est de 725 $ pour un adulte seul ou 1 122 $ pour 2 adultes. Puis pour vous donner une idée de l'ampleur, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale pour le Québec indique qu'en novembre dernier, si on prend juste comme un portrait de novembre dernier, il y avait plus de 29 000 demandeurs d'asile qui étaient prestataires d'allocations de dernier recours au Québec.
Donc là, ce que nous dit la professeure, c'est qu'il y a 2 choix. Soit on accepte de vivre avec ce montant-là, 725 $ ou 1 122 $ quand on a une famille, ou alors, finalement, il faut travailler au noir. Travailler au noir, c'est illégal.
Oui, c'est illégal et ça met vraiment en péril le parcours de demande d'asile pour ces personnes-là. Comme on apprend aujourd'hui avec le reportage de Romain Chouet, c'est des conditions très difficiles dans lesquelles les conditions de travail dangereuses parfois pour ces personnes-là.
Donc, la famille mexicaine dont vous me parlez fait partie de ces gens-là?
Ils font partie des gens qui n'ont pas de permis de travail. Dans le fond, les enfants, la maman a pu recevoir le permis de travail. Ils ont fait la demande pour l'allocation de dernier recours. Ils ne la reçoivent pas encore. La maman est arrivée au Canada avec un petit coussin financier, mais il est depuis épuisé. Ils vivent dans un 4,5. Ils payent 1 022 $ par mois pour un loyer. Et quand j'ai rencontré la maman à l'aube du mois de février, elle a dit « Je ne sais pas comment je vais payer mon loyer pour le mois de février. » Elle n'avait pas son permis de travail à ce moment-là. Elle dit « Si on se nourrit, c'est à cause de l'aide alimentaire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on ferait si ce n'était pas pour cette aide-là. » Le fils de la famille était camionneur au Mexique. Et lui, il rêve d'être camionneur ici.
On a besoin de camionneurs aussi. Ce n'est pas comme s'il y avait de la difficulté à se trouver un emploi. Là.
Il m'a dit dans un anglais timide qu'il a vraiment hâte de pouvoir travailler pour aider sa mère à payer les factures.
I really see all the movement in the trucks and all this, and it caused me a happiness. I really want work.
entre-temps, il mm-hmm. patiente, puis il regarde le va-et-vient de tous les camions sur nos routes, puis ça lui ah, amène oui. du bonheur. Mais il veut travailler. Mais lui et le reste de sa famille ne veulent pas travailler sans permis de travail parce qu'ils ne veulent pas être retournés au Mexique.
Ah, oui, c'est ça, c'est un danger, évidemment. Là, ça, comme vous disiez, ça remet en question même le processus. Ou en tout cas, ça pourrait être un enjeu dans le processus. Et vous avez rencontré, Marika, une intervenante qui travaille avec des demandeurs d'asile. Comment est-ce qu'elle voit les choses?
Ariane Leclerc travaille avec le Carrefour d'action interculturelle. Elle accompagne actuellement une vingtaine de familles de demandeurs d'asile qui s'installent dans la ville de Québec, dont cette famille mexicaine. Et elle explique que de ne pas avoir un permis de travail veut dire vraiment des précarités multiples pour ces personnes.
Il y a une grande précarité financière. Ça restreint l'accès au logement, puisque les prix des logements en ce moment explosent. Donc, ça fait que soit les gens vivent dans des très petits logements à plusieurs personnes ou s'éloignent des centres-villes pour accéder à des logements un peu moins chers, mais là, on devient avec des enjeux d'accès aux différents services qui sont surtout au centre-ville. Ensuite, je pense que ça fait une grande précarité au niveau de la santé et de la santé psychologique des gens. Ça vient avec beaucoup d'anxiété.
Donc, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada dit travailler avec l'Agence des services frontaliers du Canada pour diminuer l'arriéré. Puis Aline Lechombe, la professeure de l'Université Laval, dit qu'elle considère vraiment tout le monde perdant dans cette situation. Vous mm-hmm. l'avez mentionné avec les camionneurs, la pénurie de main-d'œuvre. Ça dit si on se met juste dans une situation purement, cyniquement économique, mm-hmm. on est perdant sans même considérer l'impact sur le parcours de ces personnes-là.
Ces personnes-là sont évidemment perdantes à moyen et à long terme. On voit que cette succession de difficultés va hypothéquer leur parcours. Et puis, comme société, on est évidemment tous perdants aussi, puisqu'on se retrouve avec des personnes qui sont qualifiées dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre.
Non, c'est vraiment parler aux entrepreneurs ici, la région de Québec, ce que ça veut dire d'avoir accès à une main-d'œuvre qualifiée comme ça, camionneur, c'est assez clair, là, parce qu'il y a vraiment une demande forte dans ce secteur-là, mais pour d'autres secteurs aussi.
Il faut dire, elle rencontre des avocats, des ingénieurs, ouais. des journalistes, des médecins qui sont hautement qualifiés également.
Ouais. Ah oui, absolument. Mais il y a une diversité aussi d'offres d'emploi pour les gens qui sont ici. Et ça dit, il y a une bonne nouvelle quand même. La maman a reçu son permis de travail. Qu'est-ce que ça change?
Bien, pour elle, elle est rentrée chez elle lundi absolument rayonnante. Notre caméraman Bruno Giguère, qui est également le réalisateur mm-hmm. pour Mon Topo, qui sera présenté au téléjournal, était chez eux. Il dit qu'elle était rayonnante d'avoir franchi cette étape. Mais Ariane Leclerc, l'intervenante, dit que l'obtention de ce permis est vraiment une embûche plutôt, oui. dans le parcours de ces personnes, des demandeuses d'asile, parce qu'ensuite, il faut accéder au marché de travail. Des fois, oui. c'est unilingue hispanophone, les services ne sont pas toujours adaptés. Trouver un emploi qui est à la mesure des compétences et des qualifications de la personne peut être très difficile également. Mmh. Alors, ce n'est qu'un début. La maman et les enfants ont commencé des cours de francisation la semaine dernière.
Bien, c'est une question que j'allais vous poser, ça, parce que pendant ce temps-là, est-ce qu'ils peuvent être payés pour avoir ces cours de français-là? Parce qu'il y a un programme du gouvernement du Québec qui vous permet de recevoir une allocation quand vous participez aux cours de francisation. Est-ce que ça peut être ajouté à l'allocation?
De ce que je comprends, non. Ils ne sont pas payés pour participer aux cours de francisation. Ils ont le droit, mais ne sont pas payés, de ce que je comprends.
En raison de leur statut.
En raison de leur statut.
Eh bien. Donc, Marika Wheeler, vous êtes journaliste ici, journalisme d'impact à Radio-Canada Québec. Vous pouvez, j'invite les gens à aller voir votre article sur Internet, c'est sur notre page Internet, dans la section Québec, entre autres, c'est ça que vous allez trouver. On va vous mettre aussi sur notre page Facebook l'article en question et on va pouvoir voir votre reportage ce soir au téléjournal. On peut aussi vous dire que notre collègue Romain Chouet, plus tard en soirée en enquête, va présenter un reportage qui est en lien aussi avec les demandeurs d'asile qui n'ont pas vraiment le choix d'aller travailler au noir. Donc, on creuse vraiment la question aujourd'hui, là, ce dossier des demandeurs d'asile qui attendent d'avoir un permis de travail. Merci beaucoup, Marika.
Merci, Alex.
8h24 minutes. Patricia, vous nous parlez de nouveautés musicales.
Oui, alors ça va être... ça va vous intéresser, je pense. Zombie Life Mon Cœur. Ça, c'est le nom du projet de l'artiste. C'est le réalisateur et mixeur montréalais Jean-Bruno Pinard, qui a travaillé avec de nombreux artistes, notamment ici à Québec. Il a gagné d'ailleurs le Félix pour prise de son et mixage de l'année au dernier gala de la disque pour Crash de Les Louanges. Donc, Jean-Bruno a fait la rencontre d'Éliott Durocher, qui a travaillé avec Mon Doux Seigneur, Lumière notamment. Et est ainsi, ce projet a pris forme en 2018, une belle collaboration entre les deux. Donc, Jean-Bruno Pinard là, nous offre un album le 14 avril prochain qui s'intitule « Éclore au matin ». Alors, cet album, pour le créer, il s'est adjoint, en fait, il a collaboré avec de nombreux artistes. Il y en a plusieurs de Québec. Là, je pense à Lumière, Anatole, Les Louanges ou encore Lou-Adrienne Cassidy. C'est le premier extrait qui est lancé de cet album. Elle chante « Mon chandail disco ». Adrienne Cassidy, qui a prêté sa voix à cette chanson « Mon chandail disco » de Zombie Life Mon Cœur. Il faudra retenir ce nom. Hâte d'écouter l'album avec toutes ses collaborations. « Éclore au matin », le titre de cet album apparaît le 14 avril prochain.
Il semble qu'il y a un petit feeling de jeu de redis là-dedans. Là.
Jeudredi.
Vous connaissez l'expression, jeudredi.
Bien, expliquez-moi, j'ai jamais vraiment saisi les
vendredis. Parce qu'on est proche du vendredi.
Ah,
donc,
c'est ça.
Jeudredi. Ben... Hey, mon garçon m'est arrivé avec ça, moi, hier, de l'école. Donc, ça se parle.
C'est une mode.
C'est une mode, je pense. Ouais. Parlant de disco, Martin Leclerc, notre collègue journaliste, blogueur, Radio-Canada Sport. Comment
bonjour,
j'ai trouvé mon lien, Martin?
Oui, c'est ça. Là, j'attends le reste.
Ben non. On va pas partir de rumeurs aujourd'hui, là.
Je me débrouille quand même un peu.
OK. Ça, on garde ça, on prend ça en note. Ça pourrait peut-être revenir. Tout ce que vous dites peut être retenu contre vous, éventuellement, vous savez. Hein. Bonjour, Martin.
Bonjour, Alex.
Deux directeurs généraux quittent ou perdent leur poste dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Là, c'est ça, hein, c'est quittent ou perdent leur poste. On n'est pas certain.
Bien, il y en a deux. Il y en a un qui a quitté et l'autre a perdu son poste. Alors, j'ai inclus les deux dans mon titre, mais je tenais à parler particulièrement du cas de Philippe Boucher, qui est quand même... C'est une sorte d'éminence grise ou de personnalité avec une forte crédibilité dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Philippe Boucher a été, au cours des 10-12 dernières années, directeur général de l'Océanique de Rimouski. Il a aussi été entraîneur et directeur général des Remparts de Québec. Et hier, il a remis sa démission à titre de directeur général des Voltigeurs de Drummondville. Ça a causé une certaine surprise dans le milieu. On parle quand même, Philippe Boucher a mené une carrière de 17 ans dans la Ligue nationale de hockey. Donc, beaucoup de crédibilité. C'est un atout majeur d'avoir quelqu'un comme lui pour aider à développer le hockey québécois et les jeunes, les meilleurs espoirs québécois. Et donc, Philippe Boucher a remis sa démission. Il y a les Voltigeurs qui sont en chute libre présentement au classement là, depuis la fin du mois de décembre. Ça va très, très mal du côté des Voltigeurs. Ils sont maintenant rendus avant-dernier dans l'Association de l'Est, dans la Ligue junior majeure du Québec, mais Philippe Boucher dit que ça n'a pas de rapport, sa démission, avec les performances de l'équipe. Il a subi une très sévère commotion cérébrale il y a à peu près un mois et demi, un accident bête qui est arrivé devant son domicile. Il combat encore les symptômes de cette commotion cérébrale-là. Il dit que c'est très éprouvant, qu'il n'est pas en mesure de faire son travail. Et bon, il vient d'avoir 50 ans, il dit je quitte définitivement le hockey junior, j'ai besoin d'avoir un peu plus de liberté dans ma vie. Alors, je tenais à souligner ça parce que c'est quand même, c'est une personnalité sportive de la région de Québec qui a eu beaucoup d'influence sur, sur beaucoup de talents québécois, et de le voir quitter comme ça, c'est un peu triste.
Tout à fait. Puis pour ce qui est du congédiement, là, ça s'est passé à Val-d'Or.
À Val-d'Or, oui, les foreurs de Val-d'Or qui ont annoncé hier le congédiement de leur directeur général, Pascal Daou. Les propriétaires ont dit, écoutez, nous ne sommes pas satisfaits des performances de l'équipe. Les foreurs sont derniers dans l'association de l'Est, dans la division Est de la Ligue junior majeure du Québec. Alors, il y aura un successeur qui sera nommé au cours des prochains jours, des prochaines semaines.
Là, vous piquez ma curiosité, Martin, parce que vous faites référence à une série, là, Designated Survivor. Hein,
oui.
Vous avez regardé ça?
Oui, c'est une série passionnante. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance de regarder ça. C'est une série qui mettait en vedette Kiefer Sutherland et la trame de la série tournait autour de, bon, c'est ça, le survivant désigné. Mm-hmm. Quand le président des États-Unis prononce son discours sur l'état de l'Union, comme c'est arrivé cette semaine, ben là, tous les élus américains sont sous le même toit au Capitole. Il y a les juges de la Cour suprême aussi. Alors, en cas de catastrophe majeure, le président des États-Unis désigne un membre de son cabinet qui ne doit pas être présent au discours, au cas où, donc, tu sais, l'appareil politique serait anéanti au complet. Et donc, cette personne-là est le survivant désigné. Et cette semaine, le survivant désigné de Joe Biden, c'était le secrétaire du travail, Marty Walsh. Et pourquoi je vous parle de Marty Walsh? Ouais. C'est parce qu'au cours des prochains jours, Marty Walsh va être nommé directeur exécutif de l'Association des joueurs de la Ligue nationale.
Ah,
et ça, c'est une très, très grosse nouvelle parce que, Marty Walsh, c'est une grosse pointure, là. Bon, il est secrétaire du travail des États-Unis, quitte son poste. Avant ça, c'était le maire de Boston. Il a été maire de Boston de 2014 à 2021. Et avant ça, Marty Walsh a été un syndicaliste. Il a été à la tête du plus gros syndicat de la construction de la région de Boston. Et on semble-t-il qu'il ne fait pas dans la dentelle comme négociateur syndical. Oui. Alors, ça veut dire que Gary Bettman va faire face à... va avoir un adversaire, un vis-à-vis qui a beaucoup d'envergure devant lui pour la prochaine négociation de convention collective.
Ah, parce que ça n'a pas toujours été simple pour l'association des joueurs.
Non, et c'est ça qui campe le décor, c'est que l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey a toujours eu des problèmes. Ça a souvent été dysfonctionnel. Premièrement, le directeur exécutif de l'association, Alan Eagleson, a été emprisonné parce qu'il fraudait, ses membres. Et son successeur, Bob Goodenough, qui était en place au début des années 2000, a été évincé parce qu'il refusait l'implantation d'un plafond salarial et des agents se sont coalisés pour l'expulser et accepter les conditions très, très difficiles que Gary Bettman imposait. Alors, c'est un syndicat qui n'est pas très militant. Et là, il y a un vrai leader syndical qui arrive à la tête de l'Association des joueurs. Alors, faudra surveiller ça. Ça annonce des années assez intéressantes au sein de la Ligue nationale de hockey. Et donc, Marty Walsh sera le deuxième homme le plus puissant dans le monde du hockey. Et ça va probablement changer le ton des discussions entre les joueurs et les propriétaires.
Annonce officielle, donc, à venir.
À venir sous peu, mais déjà, les grandes agences de presse cette semaine, Associated Press, ont confirmé que Marty Walsh quittait le cabinet de Joe Biden pour se joindre à l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey.
Et un mot sur le Canadien, Martin, qui reprend le collier cet après-midi.
Oui, alors Martin Saint-Louis, c'est son premier anniversaire à titre d'entraîneur du Canadien aujourd'hui. Il va célébrer ça en accueillant ses joueurs à l'entraînement. C'est le retour au travail pour le Canadien après 8 jours de pause. Et au lieu de se demander de viser une place en séries éliminatoires, bien, on va faire le décompte des blessés parce que quand l'équipe est partie en pause la semaine dernière, il y avait 8 joueurs qui étaient blessés, sans compter Carey Price et Paul Byron qui n'ont pas joué un match. Alors, on se concentre du côté du Canadien. Là, il y aura 2 matchs, les 2 traditionnels matchs du week-end du Super Bowl en fin de semaine qui vont être joués sur l'heure du midi contre les Islanders de New York et les Oilers. Et on va regarder au cours des prochaines semaines, spéculer sur les prochaines transactions à venir du côté du Canadien de Montréal. La date limite est dans 3 semaines, la date limite des transactions.
Vous parliez du discours de l'État de l'Union, là, en parlant de la série Designated Survivor. Est-ce que vous avez vu la vidéo passée du fameux baiser entre Jill Biden, l'épouse du président Joe Biden, et le mari de la vice-présidente Kamala Harris?
Non, je n'ai pas vu ça.
Il y a une explosion de commentaires aux États-Unis. Elle s'avançait là, juste avant le discours, il y avait des applaudissements, elle s'est avancée vers le mari de Kamala Harris, qui s'appelle Doug Emhoff, et se sont fait la bille, sauf que ça ressemblait pas mal à un baiser sur la bouche.
OK.
On a déjà vu ça au Québec, vous vous souvenez, avec une sœur premier ministre? Là.
Oui, tout à fait.
Mais là, sur les réseaux sociaux, il y a une espèce d'explosion de commentaires, la vidéo est virale. Vous irez voir ça pour porter votre propre jugement, parce que c'est la grande question en ce moment. Est-ce que c'était un baiser sur les lèvres ou juste sur le coin de la bouche? mais c'était vraiment pas sur la joue, là.
C'est rare que le président et le vice-président sont tissés aussi serrés. Alors, ben, non, je vais aller voir ça.
Effectivement, il y en a qui pourraient avoir des doutes. Merci, Martin Leclerc, notre collègue journaliste de Blogueur Radio-Canada. On se reparle la semaine prochaine. À la salle des nouvelles, Martin, la ville de... Vous n'avez pas vu ça, cette vidéo-là, vous?
Non, j'ai pas vu ça.
Ah non, vous irez voir ça, c'est intéressant. La ville de Québec devra embaucher un pompier daltonien et lui verser 110 000 $ de compensation pour avoir écarté sa candidature en 2015.
La presse rapporte ce matin une décision du Tribunal des droits de la personne qui juge la ville coupable de discrimination à l'égard de Sébastien Samson-Thibault. Entre 2012 et 2015, l'aspirant pompier est passé à travers tout le processus d'embauche au service de protection contre l'incendie de Québec qui l'a finalement exclu parce qu'il distingue mal le rouge et le vert. Le juge conclut cependant que la ville impose une norme trop rigide, plus stricte que partout ailleurs en Amérique du Nord et qui n'est pas nécessaire pour assurer la sécurité du candidat, de ses collègues et de la population. Comme Sébastien Samson-Thibault est déjà pompier à Rivière-du-Loup, le juge ordonne à la ville de lui rembourser la différence de salaire qu'il aurait touchée depuis 2015 et de lui offrir un emploi. La Ville de Québec n'a pas encore indiqué si elle compte porter cette décision en appel. Des citoyens du quartier Les Saules reprochent à la Ville de Québec sa manière de procéder concernant la coupe d'arbres dans un boisé situé derrière leur résidence. Le déboisement doit permettre à une entreprise de construire un nouvel immeuble dans le parc technologique. Les résidents voisins ont appris lundi que le boisé serait amputé d'une largeur de 7 mètres additionnels. Marie-Ève Brochu habite le secteur. Elle demande à la Ville de mieux planifier ce genre de travaux à l'avenir.
J'aimerais ça qu'on se fasse enfin entendre du fait qu'on veut que ça change. C'est pas vrai qu'on va refaire les choses encore et encore de la même manière. Il y a moyen d'être créatif, proactif dans la partie qui suit. On demande vraiment d'avoir, si possible, un 30 mètres. Un 30 mètres qui va assurer que les citoyens ne vont pas encore en profiter de cette zone-là pour marcher.
Bruno Marchand se dit ouvert à revoir les façons de faire, mais il admet que dans ce dossier, c'est le développement économique qui prime. La chef de Transition Québec demande qu'il soit possible de remplacer un élu au conseil municipal dans les cas de congés parentaux. Jackie Smith, qui doit accoucher à la fin du mois de mai, juge que les règles actuelles forcent les nouveaux parents à écourter leur congé pour ne pas laisser les électeurs sans représentant. Bruno Marchand estime que les règles au sujet des absences peuvent sans doute être modernisées, mais à son avis, pour siéger à l'hôtel de ville, une personne doit être élue par les citoyens.
Ça fait partie du principe démocratique. Ce sont les élus qui siègent. Maintenant, est-ce qu'il y a des tâches qui peuvent être faites? Est-ce qu'on peut aménager, par exemple, certaines règles? Puis pourquoi pas l'observer pour, par exemple, des enjeux où quelqu'un devrait prendre une pause des enjeux de santé mentale, donner de l'espace aux personnes pour qu'elles puissent en avoir besoin en fonction de leur réalité, pourquoi pas?
Actuellement, la loi ne permet pas aux élus de s'absenter plus de 18 semaines pour un congé parental.
Marc-André, est-ce que vous voyez la lumière? La lumière au bout du tunnel?
Au bout du tunnel, Alex, ben pour la rive nord, oui. Là, j'ai l'impression que ça ne s'éternisera pas trop comme heure de pointe. Il reste l'échangeur Laurentienne, Félix Leclerc, là, où on a encore des ralentissements du côté ouest de Félix Leclerc, mais aussi direction est pour l'accès Laurentienne-Sud. Il y a encore un peu de congestion dans la bretelle. À partir de Laurentienne-Sud, pour l'accès Félix Leclerc-Ouest, on a droit au même scénario un peu après le Bourgneuf. Alors, on sent que ça s'améliore, mais pour le reste, du côté de la rive nord, ça roule vraiment très bien. C'est sur la rive sud où c'est encore pénible à cette heure-ci. On a eu des incidents à la sortie du pont là, qui ont été très longs à régler. Alors, c'est pas terminé pour notre heure de pointe. On a le droit de croire, là, de penser que ça va s'étirer un peu au-delà de 9 heures. Pour la 73 Nord, notamment, là, on est toujours bloqué, secteur de la rue Beaulieu, présentement. Alors, jusqu'au pont, on est par choc contre par choc. On note quand même de bonnes améliorations là, pour la 20 direction ouest, où il reste un léger ralentissement, secteur de l'avenue Taniata. Mais à partir du chemin du Sault, on est toujours bien bloqué avant le pont La Porte. Même chose pour la 20 Est qui est encore bien au ralenti, tout juste après la route des rivières, le secteur du pont surplombant la rivière Chaudière. En ce qui concerne l'accès pour le pont de Québec, là aussi, c'est laborieux. Sur Marie-Victorin, secteur de la rue Jérôme-Demers, on est encore bien au ralenti. Et c'est encore bloqué avant le chemin du Sault, mais bien avant le chemin du Sault, là, pour Guillaume Couture en direction du pont de Québec Nord également. Là. Donc, ça prend encore de la patience du côté de la rive sud.
Et sur votre radar météo, Mireille?
Bien, j'allais dire à Marc-André, il dit que ça prend de la patience ce matin. Imaginez demain matin, parce qu'on sera dans pas mal de neige. Imaginez déjà, au cours de la nuit prochaine, on va recevoir 10 à 20 cm de neige pour la grande région de Québec. Ça inclut bien sûr Portneuf, Lévis, Lobinière, jusqu'à Bellechasse, Côte-de-Beaupré. On est en avertissement de tempête hivernale et en plus, à l'heure de pointe demain matin, épisode de pluie verglaçante là, à prévoir, transition de la neige vers la pluie pour ensuite revenir en neige durant la journée pour ajouter un autre 5 à 10 cm. Alors demain, on est en mode tempête. Les secteurs de Charlevoix, on reçoit pas mal les mêmes quantités, à l'exception qu'on n'est pas dans le verglas demain. Ça demeure sous forme solide tout le temps. Et en Beauce, bien, la douceur est au rendez-vous. Un peu comme dans le sud du Québec, on aura beaucoup de pluie. Région de Montréal, vers la Mauricie, avertissement de pluie verglaçante. Bien, en venant vers la Beauce, on aura un mélange de neige pour 5 à 10 cm durant la nuit, mais avec un 10 mm de pluie prévu, notamment pour le secteur de Tête-Fermines, avec du verglas à travers ça, des températures au-dessus de 0, 5, 6. Alors, c'est vraiment différent. Si vous avez à prendre la route demain, le regardez, parce que selon les secteurs où vous vous trouvez, le scénario météo sera bien différent. Belle journée pour moucher, sans doute, demain, hein, pour les gens qui aiment faire de la pêche à la mouche et qui aiment se préparer pour la saison. En tout cas, c'est une belle saison pour faire des cannes à moucher aussi en bambou. Imaginez, c'est la nouvelle passion d'un père et son fils, Michel Sylvestre à Lévis, et son fils Gilbert, qui ont développé ça depuis quoi? 2015 environ, donc c'est quand même récent, mais ils ont plongé à fond dans cette passion-là, même qu'ils ont décidé de créer ensemble le mouvement Canne à mouche en 2017 pour permettre aux jeunes aussi du secondaire d'apprendre à fabriquer du matériel de pêche. Alors, je les rencontre ce matin dans leur atelier. Bonjour, Michel et Gilbert.
Bonjour, bonjour.
Quel plaisir de vous voir dans ce bel atelier qui est au cœur du Collège de Lévis, que vous avez tous les deux fréquenté, le père et le fils. Oui. Et racontez-nous, Michel, parce que c'est un peu un concours de circonstances. À la maison, ça devenait un petit peu envahissant, peut-être pour votre conjointe.
Exactement, exactement. J'avais envahi le sous-sol au complet.
C'est ça. Alors, vous avez proposé au Collège de venir vous installer ici. Comment
oui,
ça a été reçu?
C'est ça. En 2017, j'ai rencontré le directeur David Lehoux qui était bien ouvert à ce projet-là. En fait, c'était de créer un espace pour les jeunes pour apprendre les rudiments, je vous dirais, de la pêche à la mouche, donc montage de mouche, montage de canne. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé, tout bien... Bien humblement au début, là, à partir de septembre 2017, on a eu une petite cohorte de 6 jeunes là, qui se sont pointés au local, puis on a commencé comme ça. Là.
Et maintenant, ça a pris de l'ampleur. Imaginez, vous êtes rendu dans 10 écoles.
On est rendu dans Chaudière-Appalaches avec une dizaine d'écoles, oui.
Dont Sherbrooke aussi.
Dont Sherbrooke qui s'est joint l'année passée, oui.
C'est en parascolaire, bon, il faut le mentionner, mais les jeunes sont quand même nombreux à y participer. Comment ça se passe? C'est quoi la réaction des jeunes secondaires quand on les initie à tout ce qui relève de la pêche, finalement?
Écoute, ils ont les yeux grands d'abord de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire de leurs propres mains, c'est-à-dire qu'on leur monte à monter des mouches. Donc, pendant l'année scolaire, ce qu'ils font, c'est que c'est ça. On a une session de 4 semaines où ils apprennent à monter leur mouche de base, on dirait. Là. Et puis, tout de suite après, bien, ils ont une autre 4 semaines où ils apprennent à monter une canne à pêche en graphite ou en fibre de verre. Mm-hmm. Donc, dans l'année scolaire, ce qu'ils font, dans le fond, c'est qu'ils préparent leur matériel de pêche. On les fait rêver pendant ces ateliers-là. Et puis, quand ils arrivent au printemps, puis au mois de mai-juin, bien... Vous comprendrez qu'ils veulent aller à la pêche, ces jeunes-là. Là. Fait qu'on les amène à la pêche aussi. Là.
Et là, vous les amènerez notamment en juin du côté de Kamouraska, même que vous organisez des Olympiques de la pêche.
Oui, mais là, ça va être le 20 mai cette année. Oui. On est en train d'organiser ça. On va faire ça dans une cour d'école, probablement ici au collège. Et puis, on va faire aussi... on fait une compétition par équipe. Les jeunes vont être en équipe de deux. Et puis, les finalistes vont se retrouver à la pourvoirie des trois lacs de Saint-Bruno de Kamouraska. Oui.
Alors, on vérifie les nœuds, on vérifie les lancers, les techniques, l'identification des poissons aussi.
On
va leur
donner
les
cours de lancer, puis là, ils vont être mis à l'épreuve.
Vous vouliez les contaminer, les jeunes. Alors, vous avez réussi. Vous le faites bien avec votre fils Gilbert. Gilbert, c'est important de distinguer deux choses. Parce que là, je parle du mouvement canne à mouche, bien sûr, qui est rendu un OBNL, où est-ce qu'on initie les jeunes. On n'est pas dans le bambou à ce moment-là. On n'est pas dans la canne à pêche en bambou, parce qu'à la canne à pêche en bambou, vous êtes les seuls au Québec à le faire. Et c'est un produit de luxe, très niché. Vous avez dit tantôt 40 heures environ de travail.
C'est ça.
Je vous voyais tantôt sur l'atelier. Là, vous avez terminé, donc, ce qu'on pourrait... Décrivez-nous ce que vous étiez en train de faire.
Présentement, j'étais en train de faire la ligature. Donc, on a des guides qui sont disposés à certaines distances tout au long de la canne. Et on va venir les attacher avec du fil qui va ensuite être verni. pour protéger, pour maintenir en place le guide.
Votre père me le disait tantôt, hein, c'est une canne à pêche qu'on utilisait avant les années 60, qui aujourd'hui, vous l'aimez en raison de tout le travail qu'elle a et sa précision, la technique aussi, qui est vraiment intéressante sur l'eau. Les gens, les adultes, peuvent venir prendre ce genre de cours-là, apprendre à faire une canne à pêche en bambou.
C'est des ateliers qu'on offre, mais aussi en graphite et en fibre de verre, qui peut être moins dispendieux, mais des ateliers en bambou, c'est sur fin de semaine ou ça peut être de jour aussi.
Mais là, ce n'est pas le 40 heures, parce que vous faites quand même une partie du travail. La portion avec le rabot, quand on part vraiment du bambou, quand il arrive dans son état brut pratiquement, ça, c'est vous qui le faites, là.
Oui, exactement.
La sueur de vos bras.
Oui, c'est ça. C'est...
Et de votre fond.
si on offrait les ateliers complets, ça serait quelque chose qui serait beaucoup trop long. Fait qu'en fait, les gens qui viennent faire l'atelier avec nous ont déjà les baguettes de montée avec les férules, les viroles qu'on appelle en français, qui sont les jonctions entre les deux sections de la canne. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont coller tous leurs accessoires, ils vont faire la ligature et choisir leur couleur, choisir les finis des accessoires.
On le disait tantôt, entre 1 500 et 2 000 $ dans votre cas environ, là, les cannes à pêche, selon s'il y a une ou deux sections. Il y a tellement de travail derrière ça. C'est un produit vraiment d'art, pratiquement. C'est très, très beau. Vous aimez tellement ça, Gilbert, que vous avez un projet de vous lancer carrément en enfer. Hein? Je le disais tantôt, technique en architecture, bien ça, c'est un peu laissé de côté.
Oui,
vraiment, la pêche à la mouche a pris toute sa place. C'est quoi votre projet? On pourrait vous voir avoir pignon sur rue à Lévis avec les cannes à pêche en bambou?
Exactement. Peut-être éventuellement avoir une petite boutique, un site Internet, une boutique en ligne de vente, offrir aussi des kits que les gens vont pouvoir fabriquer chez soi.
Ah oui. Donc on remercie Michel, votre père, de vous avoir transmis ça un peu sur le tard à quelques années de sa retraite. Là, il va partir à la retraite en mai prochain. En deux mois, êtes-vous des bons pêcheurs aussi, Gilbert?
Oui, pas pire, mais il manque du travail encore.
Ah oui. Et Michel, le plus gros poisson?
Ben écoute,
rapidement.
Ben j'ai piqué un saumon une fois dans ma vie.
Ça, ça ne veut pas dire que vous l'avez volé. Vous l'avez volé bien pêché.
Je l'ai ramené jusqu'au bord, mais il s'est décroché, le pauvre.
Bon, c'est pas grave. Vous êtes quand même bon sur le lancer.
La truite en masse. Oui.
Michel et Gilbert, merci beaucoup. Déjà, tous les liens sont sur notre page Facebook. Les écoles qui voudraient s'inscrire, bien évidemment, ça va à l'automne prochain. Là, mais ça semble bien populaire. Michel qui sera occupé pour sa retraite de Radio-Canada, il faut le dire, il travaille à la Semaine verte. Voilà, Alex.
Oui, ils sont pas mal honnêtes, je trouve, aux pêcheurs quand même. Il me semble que quand on entend l'histoire de pêcheurs, longue de même, la truite, longue de même.
C'est ça. Un qui dit qu'il est pas trop bon, puis l'autre qui dit qu'il l'a piqué. Bon,
très franc.
C'est honnête.
Merci, Mireille.
À tantôt.
Là, on va vous parler d'un sujet qui tombe vraiment bien parce qu'on parle de ce qui se passe sur le marché du travail, on pense à la pénurie de main-d'œuvre. Le premier ministre François Legault a souvent parlé de cette nécessité d'augmenter la productivité des entreprises dans le contexte de la pénurie de main-d'œuvre. Il y a des gens qui parlent d'une quatrième révolution industrielle avec l'utilisation de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. La question, c'est de savoir, est-ce que vous êtes prêt pour l'intelligence artificielle? D'abord, c'est quoi l'intelligence artificielle et est-ce qu'on est prêt pour ça? Parce que il n'y a pas toutes les entreprises qui ont le même niveau de maturité pour pouvoir intégrer l'intelligence artificielle puis en profiter comme il le faut. Et à l'Université Laval, on a cherché à mesurer cette maturité-là des entreprises. Donc, quelle entreprise au Québec pourrait bénéficier le plus de l'intelligence artificielle? Il y a un outil qui a été développé par l'Institut Intelligence et Données de l'Université Laval. Puis on va en parler ce matin avec notre invité. Il s'appelle Julien Lemonnier. Il est chef de l'équipe scientifique de l'Institut Intelligence et Données de l'Université Laval. Il est avec nous en studio. Bonjour, M. Lemonnier.
Bonjour.
Merci d'être passé.
Ça me fait plaisir.
Nous expliquer tout ça parce que c'est pas simple quand même. D'une part, qu'est-ce que l'intelligence artificielle et qui peut en profiter?
Alors, l'intelligence artificielle, je pourrais en parler pendant des heures sans être capable de vous définir exactement ce que c'est, mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il s'agit d'outils qui permettent finalement de faire un peu, de prendre exemple sur des experts et cet outil-là va permettre de réaliser des tâches dans différentes entreprises. Alors, ça peut être très large, hein.
Ouais.
On a plein d'exemples de reconnaissance d'image ou même de reconnaissance de parole, de génération de texte maintenant. Beaucoup.
Ça peut faire le travail d'employé, là, littéralement. Alors, ça peut remplacer des employés dans certains cas.
Ça peut remplacer, il faut faire attention, je dirais plutôt que ça peut remplacer certaines tâches des employés. Ça serait difficile, actuellement, c'est difficile de remplacer complètement des employés, à moins d'avoir peut-être certaines des employés qui ont des tâches très, très spécifiques et très restreintes. Mais en général, ce qu'on dit, c'est que ça va remplacer des tâches, ça va aider l'employé pour certaines de ces tâches peut-être plus complexes ou même pour les tâches très, très simples qu'il pourra laisser de côté. Mais remplacer l'employé complètement, on n'en est pas encore tout à fait là, je pense.
Ouais, ben, l'idée, c'est ça. Peut-être que c'est même dur, c'est dit durement là, de dire qu'on va remplacer l'employé, mais dans un contexte où une entreprise parvient pas à trouver les employés, la main-d'œuvre nécessaire. Exactement. Dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, ça peut donner un coup de pouce.
Là. Exactement. Ben, c'est un peu ça l'objectif là, d'inciter les entreprises justement à aller vers ces outils-là, de pouvoir faire des tâches qui seraient nécessaires de faire, mais qui n'ont personne pour le faire pour l'instant.
Et juste pour marquer l'importance de l'intelligence artificielle dans le contexte économique actuel, pour vous, c'est un enjeu fondamental. On se dirige vers quelque chose avec ça.
Ben, en réalité, on s'aperçoit que c'est de plus en plus utilisé et utilisable par tous, et ça apporte beaucoup de choses. Alors évidemment, j'en parlerai sûrement tout à l'heure, mais il y a aussi des limites là, il ne faut pas non plus les oublier. Mais n'empêche qu'on s'aperçoit que de plus en plus, les gens, enfin les entreprises ou même les personnes gagnent un peu à l'utiliser. Donc c'est pour ça que c'est important.
Et là, je disais en introduction, toutes les entreprises ne sont pas au même niveau pour utiliser l'intelligence artificielle.
Exactement.
Et vous avez créé cet outil-là pour mesurer le degré de maturité des entreprises pour intégrer l'intelligence artificielle.
Oui, c'est ça. Alors, en fait, on ne l'a pas fait tout seul, hein, parce que c'est quand même un outil complexe. On l'a fait en collaboration, donc on a commencé il y a un an, en collaboration avec le Forum IA, qui, très récemment, a été fusionné avec le Conseil de l'innovation. Donc, ça va être plus du bord du Conseil de l'innovation que ça va être pris en charge. Mais en gros, c'est un outil qui permet aux entreprises d'aller regarder où est-ce qu'ils en sont en s'interrogeant sur des grands domaines avec certaines questions. Et ça permet également de mesurer un peu l'endroit où ils sont et de fournir des recommandations. Alors, des recommandations un peu générales, évidemment. Mais parce que on peut pas aller, pas aller complètement dans le détail avec un outil assez simple. Mais ça permet effectivement à ces entreprises d'avoir des conseils, puis d'être capable de dire, OK, j'en suis là, j'ai besoin de travailler tel ou tel élément. Donc par exemple ma stratégie, par exemple réfléchir à mes données, par exemple réfléchir à mon matériel, mon infrastructure technologique, qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec, réfléchir également aux ressources humaines, c'est-à-dire comment les gens qui travaillent avec sont impliqués dans l'utilisation de cet outil-là, comment ils sont formés. Et évidemment, on n'oublie jamais, il ne faut jamais oublier la partie gouvernance et éthique, parce qu'on insiste beaucoup à l'Université Laval avec l'OBVIA, l'Observatoire sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle. On insiste beaucoup sur l'aspect éthique, donc savoir si l'utilisation de l'IA ne va pas créer des discriminations, ne va pas augmenter les biais qui existent déjà, s'il n'y a pas d'enjeux environnementaux, par exemple. Donc là, je fais un survol
parce
rapide.
On en a parlé de ça, des fois, que l'intelligence artificielle intégrait par la force des choses des biais.
Exactement.
Qu'on retrouve dans la population, des stéréotypes, des choses comme ça.
C'est ça. Donc, on sait que ça le fait. Ce qu'on veut s'assurer, c'est que ça ne l'amplifie pas au moins. Au mieux, ça ne l'amplifie pas. Mais au pire, ça ne l'amplifie pas. Mais au mieux, on aimerait même que ça améliore aussi. Là. C'est un peu ça l'idée.
Donc, concrètement, ça veut dire quoi quand vous dites que cet outil-là est à la disposition d'une entreprise? C'est quoi? C'est un formulaire? Ça se passe sur l'ordinateur? On va répondre à des questions?
C'est exactement ça. Via le site web du Forum IA pour l'instant, ça va peut-être changer dans les prochaines semaines, mais pour l'instant, via ce site web-là, les entreprises peuvent tout simplement aller répondre à un questionnaire. Il y a 9 questions. Donc, ce n'est pas quelque chose de très long, mais c'est quand même très ciblé et ça va leur fournir un peu toutes ces informations-là.
Si vous aviez à dire à des entrepreneurs, là, juste pour se donner une idée, qu'est-ce qu'ils devraient... comment ils peuvent savoir que leur entreprise est peut-être rendue là à utiliser l'intelligence artificielle? Quels signes qu'on a? Quelles références vous avez, là, généralement? Là?
Ben, en fait, en général, je pense qu'on dirait que principalement, c'est s'ils se posent des questions sur les données qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas, justement, pour faire leur travail... à partir de moment où il y a ces questions-là autour des données, là, il commence à y avoir une première réflexion vers l'intelligence artificielle. Alors, on n'y va pas tout de suite vers le gros kit de l'IA, mais au moins se poser des questions sur les données, savoir qu'est-ce que j'utilise dans mes processus finalement. Est-ce que j'en ai besoin d'autres? Est-ce que je pourrais améliorer ce que j'ai? Bah, déjà, ça, c'est une première étape et ça permet de...
Et l'autre question qu'un entrepreneur pourrait avoir, c'est, bon, disons que j'ai besoin de l'intelligence artificielle ou que je pourrais en tirer un bénéfice. Est-ce que c'est compliqué de me lancer là-dedans? Est-ce que c'est cher? Est-ce que je vais investir plein de ressources là-dedans? Dans quoi je me lance?
Ben, en fait, ça dépend. Ça, malheureusement, ça dépend un peu toujours des domaines. Là. Et puis, ça dépend principalement, je dirais, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, de l'accès aux données. C'est-à-dire, il y a certains domaines, on sait que c'est plus ou moins facile. Il y a des contraintes légales ou autres qui, pour les accès aux données. Mais l'aspect compliqué, ben, il faut y aller une étape à la fois, en fait. Là. Il faut vraiment pas partir directement dans le gros, la grosse utilisation, mais y aller vraiment une étape à la fois, puis s'assurer absolument que chaque étape va apporter quelque chose dans les tâches que réalise l'entreprise, dans les processus de l'entreprise.
Sur notre page Facebook, on va vous présenter l'article. On va pouvoir vous donner une référence à savoir où aller pour les gens qui sont intéressés par ce genre d'outils-là et voir un peu où ils se trouvent là-dedans. Parce que le sujet les intéresse ou parce que ce sont les entrepreneurs qui pourraient en bénéficier. Je rappelle que vous vous appelez Julien Lemonnier. Vous êtes chef de l'équipe scientifique de l'Institut Intelligence et Données de l'Université Laval. Merci d'être passé. Vous nous parliez donc de cet outil-là qui a été développé par l'Institut de l'Université Laval pour aider les entreprises à savoir s'ils ont quelle est leur maturité pour intégrer l'intelligence artificielle à leurs affaires.
Eh bien, merci à vous.
Merci. Bonne journée.
Oui, on vient d'entendre un extrait, en fait, le premier extrait de son nouvel album, Néo-Romance, qui paraît le 31 mars prochain. C'était Eligie, elle qui vient tout juste d'annoncer les dates de spectacle. Donc, elle partira en tournée après le lancement de ce disque le 31 mars. Donc, son spectacle Néo-Romance, nouveau spectacle de Léa Strelinski, s'arrête au Grand Théâtre de Québec les 9 et 10 juin. Les billets ne sont pas encore disponibles, là, parce que ça vient tout juste d'être annoncé, mais sachez qu'ils seront en vente prochainement.
Merci, Patricia. Martin, qu'est-ce que vous surveillez aujourd'hui? Que doit-on surveiller aujourd'hui?
La question des arbres est toujours une question très délicate à chaque fois qu'il est question d'arbres, ne serait-ce que dans le projet de tramway ou encore près du parc technologique où il y a des résidents qui reprochent à la ville sa façon de faire dans la gestion d'un boisé. Ça provoque des réactions viscérales. Il y a un comité plénier aujourd'hui à l'Hôtel de Ville de Québec sur la question des arbres, mais sur l'aspect... des maladies qui touchent les arbres. Il y en a plusieurs coupes d'arbres qui ont été faites aux grandes dames de bien des résidents, mais qui, on n'avait pas le choix de le faire parce que c'était des frênes qui étaient touchés par la grille du frêne ou des ormes qui étaient touchés par la maladie hollandaise de l'orme. On fait le point là-dessus avec des spécialistes, les spécialistes de la Ville de Québec à l'Hôtel de Ville. Ça va peut-être permettre d'en apprendre davantage sur les intentions de la Ville et où on en est dans les coupes de frênes. Parce que si chez vous, vous avez un beau gros frêne, mais qu'il est touché par la grille, on va débarquer et on va vous le couper.
Oui, pas de discussion.
Pas de pardon.
Ouais. Merci, Martin.
Vous en prie.
Marc-André?
Bien, pas de surprise, notre heure de pointe va se prolonger. Pour l'accès Pont-la-Porte-Nord et Pont-de-Québec également, là, c'est encore très chargé, mais notamment pour la 73 Nord. Là, on est complètement arrêté dans le secteur du parc des Chutes de la Chaudière, même un peu avant. Pour le reste, Rive-Nord, ça roule très, très bien partout à cette heure-ci.
Là, pour notre concours, n'oubliez pas notre concours pour la Saint-Valentin. Hein. Allez écrire en dessous de la publication, puis Marc-André va aller vous chercher. Puis il y a même quelqu'un qui a écrit, qui donne comme raison, qui veut participer au concours parce qu'il a besoin d'un livre jusqu'à la colline parlementaire.
Il y en a un autre qui veut voir Martin. Il va être déçu, celui-là.
C'est ça. Merci, Marc-André. Mireille, le mot de la fin.
à quel moment la neige commence. Je vous dirais début de soirée, là, autour de 18-19 heures. Et prévoir le coup peut-être dans vos déplacements pour demain matin pour vous rendre au travail, parce qu'on devrait accumuler dans la grande région de Québec, Lévis, Lobinière, Bellechasse, 10 à 20 cm de neige, secteur de Charlevoix aussi, seulement durant la nuit. Alors, prévoyez d'ici là, bien, un petit peu de soleil ce matin et des températures douces.
Bye-bye.